nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'est en 2014 qu'a été redécouverte la lettre qui a sans doute été à l'origine de l'écriture de « Sur la route » de Jack Kerouac. Une lettre de 18 pages envoyée à Kerouac en 1950 par son ami Neil Cassidy qui, dans le roman, apparaît sous les traits de Dean Moriarty. Le plus extraordinaire morceau d'écriture que j'ai jamais lu disait de ses pages Jack Kerouac. Ce courrier de 16 000 mots, dans lequel Cassidy décrivait à Kerouac un voyage vers Denver jalonné de sexe, d'alcool et de drogue, était passé dans les mains de Ginsberg et celle d'un éditeur qui fit faillite avant d'échouer chez un petit producteur de musique dont la fille hérita du précieux document. Ce document, d'une valeur inestimable, qui aussitôt retrouvé fut vendu aux enchères, aurait, dit-on, établi les codes de la Beat Generation. Mais au-delà des ventes aux enchères et de la légende de la Beat Generation, de quoi est faite l'écriture de Jack Kerouac? Comment recevoir, comprendre des lignes, des mots, des kilomètres de signes écrits comme on meurt ou comme on joue le jazz? Comment traduire le rythme, la fougue et la tension de ce qui se voulait être une transcription sans phare et à chaud de la réalité? Autant de questions qu'abordait en 1988 le quatrième volet d'une série intitulée « Sur la piste de Kerouac » dans lequel Gilles Farcé s'entretenait avec deux grands spécialistes de la Beat Generation et de l'œuvre de Kerouac, Yves Le Pellec et Bertrand Agostini. Les chemins de la connaissance, sur la piste de Kerouac, le flot spontané de l'écriture, quatrième épisode d'une série de cinq, diffusée la première fois le 2 juin 1988 sur France Culture. Avec la voix de Jack Kerouac, lisant notamment un extrait de Dr. Sachs.
To its source, huh? To its source. Yeah, says Dr. Sachs. Jean Plouffe was a great man. We must pay him a visit. I've been watching Jean for years. He was always one of my favorites. As Phantom of the Night, I got to know and see a lot of people. I once wrote a story about one of my minor adventures, which I've since lost. Neither one of us at that time knew Amadeus Baroque, or that he had found the ghostly manuscript. The flood, said Dr. Sachs, has brought the thing to a head. When I heard him say that, even though occasionally through my being struggled the wonder of his holding the W.C. Fields mask to his face, it makes not my mind whirl, but settle in obvious understanding, I knew what he meant about the flood, but by the same laws I couldn't piece it. The understanding of the mysteries, he said, will bring forth your understanding in the maples, pointing at the air. He started out of the bushes with a mighty shudder, suddenly stopped and stood silent beside me so high, thin and tall that I couldn't see his face unless I looked all up. Way up there came his famous sepulchral laugh. I tingled in my toes, Dr. Sachs. Stately queens of evil rock caves come slumming in the slush of the underground, dripping. All the swimmers of hell are poking and sticking skinny arms through the iron grates of the river jaw, the underground river beneath Snake Hill. Me. Snake Hill? You don't mean where I was this afternoon, Dr. Sachs. The Hill of Blue Balloons. Same. And with these words, he started off and pointed, turning, say goodbye to your view of the sand hills of where you call your home. We're going through these bushes and down to Phoebe Avenue.
« ne pas faire de sélection dans l'expression, mais suivre librement la dérive, l'association des idées dans les mers infinies de la pensée et l'envol du sujet, nager dans l'océan de l'anglais sans autre discipline que les rythmes de l'expiration rhétorique et de la phrase lancée. Comme un point qui tombe sur la table à chaque émission, bang ! Le tirer. Soufflez aussi fort que vous voulez. Écrivez aussi profondément. Pêchez dans les abysses. Cherchez d'abord votre propre satisfaction. Le lecteur ne manquera pas alors de recevoir un choc télépathique et de ressentir l'émotion message en vertu des mêmes lois à l'œuvre dans son esprit humain. Je m'assieds et laisse le flot couler comme j'ai fait pour tous mes livres, depuis On the Road. C'est un flot spontané qui vient tout seul. Personne ne comprenait quand je disais « Vous devriez simplement vous ouvrir et laisser jaillir. » C'est le Saint-Esprit qui passe à travers vous. Vous n'avez pas besoin d'être catholique pour comprendre ce que je veux dire. Et vous n'avez pas besoin de l'être non plus pour que le Saint-Esprit parle à travers vous.
Nous avons parlé de Jack Kerouac comme d'une figure de légende. Il est vrai que chez Kerouac, la vie occulte quelque peu l'œuvre, la légende fait de l'ombre aux écrits. Mais Kerouac, ne l'oublions pas, fut avant tout un écrivain à la production abondante, et pour qui l'écriture fut non seulement une pratique, mais un objet de réflexion constante. Beaucoup de questions se posent à propos de l'écriture chez Kerouac. D'abord, celle de la dimension autobiographique de ses livres. Car Kerouac prétend transcrire la réalité sans artifice ni invention. On peut remarquer que la littérature américaine possède une longue tradition autobiographique, depuis les journaux intimes des puritains jusqu'à Henry Miller, en passant par Thoreau, Thomas Wolfe. Donc Kerouac s'inscrit là dans une tradition qui ne lui est pas du tout étrangère, Yves Le Pellec.
Oui, effectivement, Kerouac a poussé jusqu'à un point extrême la liberté d'écriture qui lui est venue d'une tradition, mais qui aussi a été quelque chose d'une théorie qu'il a assez mûrement réfléchi, car il a commencé à écrire dans le style de Thomas Wolfe, son premier roman, The Town and the City, qui contient des passages assez intéressants, mais qui reste d'une facture assez classique. Par la suite, son écriture va énormément évoluer et on pourra parler de cette évolution, je pense, dans toutes ses étapes. Effectivement, l'essentiel pour lui, c'est de restituer la réalité de son être dans la prose la plus libre qui soit, sans inhibition aucune d'ordre syntaxique ou esthétique. C'est quelquefois une démarche qui l'amène à laisser intacts les dérapages dactylographiques, les dérapages grammaticaux, dans son livre le plus intéressant sur le plan stylistique, qui est Visions of Cody. Il y a un tel désir de restituer le réel parlé ou non brut dans sa prose, qu'il va même jusqu'à retranscrire telle quelle des bandes magnétiques, une longue conversation avec Neil Cassady dans Visions of Cody, pour rester le plus près possible de la fidélité au réel.
Donc ce parti pris de fidélité au réel a engendré ce qu'on a appelé la prose spontanée, donc une écriture rapide avec très très peu, comme vous l'avez dit, quasiment pas de correction. J'ai été frappé par le fait que les clochards célestes ont été écrits, paraît-il, en 10 séances de 15 000 ou 20 000 mots, sur la route en 2 semaines et demie de travail, avec le fameux rouleau de télétype de 120 pieds de long sur lequel Kerouac tapait au fur et à mesure. Donc on voit que c'est une écriture extrêmement condensée, extrêmement dense.
Et il y a même mieux que ça, il y a eu les souterrains écrits en trois jours.
En trois jours.
Trois nuits même, je crois. C'est
effectivement,
ça.
La chandelle. Les souterrains. Et c'est un excellent exemple, les souterrains, parce que justement, il vient d'avoir cette aventure avec l'héroïne des souterrains, une jeune fille bohème de New York et non de San Francisco. C'est un des rares changements, à part les changements qu'il opère sur les noms des personnages. Bien qu'il ait eu l'intention ensuite, à la fin de sa vie, de republier toute sa littérature avec les vrais noms. C'est un des textes les plus intéressants, Les Souterrains, pour la raison que, après cette liaison passagère et rapide avec cette jeune femme, il rentre chez lui, il termine, le livre se termine par « Je rentre à la maison et j'écris ce qui s'est passé ». À chaud. Kerouac écrivait à chaud, griffonnant dans des gares Greyhound, dans des chambres d'hôtel minables de Mexico, ce qui venait de se dérouler une semaine ou trois semaines auparavant. Mm-hmm. Il y a un aspect, un caractère d'urgence dans son écriture, de désir de coller au maximum à la multiplicité et à la vivacité de l'expérience.
Oui, il avait même donné un nom à cette espèce d'écriture à chaud, qui s'appelait le sketching, en fait. Un peu à l'instar du peintre qui croque ce qui...
Sketching veut dire esquisse. Hein.
C'est ça.
Oui, c'était une attitude qui consistait à se mettre face à l'objet, ou au souvenir, ou à la personne dont on voulait restituer l'existence, dans une sorte de transe, de façon hypnotisée, et de considérer cet objet, de le garder à l'esprit, jusqu'au moment où cet objet aurait rendu restitué le moindre de ses détails, la moindre de ses aspérités. C'est une sorte d'écriture obstinée qui revient sous forme de grandes boucles dans de très très longues phrases, des phrases de deux pages parfois, particulièrement caractéristiques de l'écriture de Visions of Cody, où il ne cesse de s'acharner sur l'objet jusqu'à ce que celui-ci ait rendu tout le mystère qu'il contenait.
Finalement, c'est une notion très romantique. On a l'impression que Kerouac croit à l'inspiration. C'est quelqu'un qui s'assied, qui parle dans certaines citations du souffle de l'Esprit Saint qui le traverse. Ça vient tout droit d'un certain romantisme.
Oui, il était d'ailleurs très souvent dans un état d'excitation extrême quand il écrivait et dans un état de fatigue physique extraordinaire. Il ne dormait plus, il utilisait tous les procédés possibles pour se maintenir éveillé. Et pour que son inspiration ne se tarisse pas, et il écrivait dans une sorte de frénésie glorieuse.
Je crois qu'on peut ajouter aussi que la recherche de la vérité est importante aussi à travers l'écriture. Et je crois qu'on pourrait même citer Bachot, ce grand haïkiste japonais, qui a énormément influencé Kerouac aussi dans son écriture, et qui disait « il faut saisir la vérité avant qu'elle ne s'enfuit ». Je crois que s'il y avait frénésie dans l'écriture, s'il y avait cette envie de boucler le livre en trois nuits, c'était de manière à ne pas laisser de côté la moindre miette de vérité. Il fallait tout de suite saisir cette vérité au vol.
Il se comparait aussi à un joueur de jazz. Il disait « je vais être considéré comme un saxophoniste qui pousse son chorus dans un après-midi chaud d'été ». Et il y a de cela, c'est-à-dire qu'il y a dans son écriture un caractère qui est éphémère. On a l'impression qu'il a consigné sur la page des choses qui ne faisaient que passer et qui, parfois, n'étaient destinées qu'à passer. Mais pour autant, il ne corrigeait pas, il ne revenait pas en arrière, gardant le bon, le mauvais, l'anecdote et le significatif. Il y a donc à la fois ce désir de saisir le réel et en même temps, dans son texte, la crainte de le figer sous une forme qui serait trop définitive. C'est pourquoi son texte apparaît toujours « a work in progress », un texte en gestation, en développement, en pleine métamorphose.
Vous venez de mentionner le jazz. Bon, Kerouac adorait le jazz. Il a dit donc qu'il voulait qu'on le considère comme un poète de jazz qui joue des blues à une jam session le dimanche après-midi. Il faut remarquer qu'il a consciemment cherché à transposer les cadences de cette musique dans sa prose et sa poésie. C'est ce qu'on a appelé la prosodie bop.
Oui, la prosodie bop qui prend d'ailleurs plusieurs rythmes. Dans On the Road, cette œuvre, certes, a été corrigée, revue, reprise par des éditeurs, mais effectivement, on entend l'accent et le rythme de Kerouac. Il y a quelque chose d'extrêmement tendu. La phrase est plus brève, elle est immédiate, elle va directement à l'expression essentielle. C'est-à-dire qu'il utilise, par exemple, beaucoup de superlatifs. Il condense énormément, il fait des hypallages réunissant des mots qui ne devraient pas aller ensemble parce que pour aller plus vite. Et donc, ça donne un aspect extrêmement immédiat, extrêmement superlatif parfois, mais très, très efficace quand les phrases s'enchaînent les unes aux autres. Et à la fin de On the Road, dont l'écriture, ai-je dit, est rapide et composée de phrases assez brèves, on a une longue évocation de Dean Moriarty. La dernière phrase du livre annonce, par cette sorte de reprise, comme un jazzman reprend sa phrase musicale, la développe, crée constamment des excroissances, on a déjà le style de Visions of Cody qui apparaît, œuvre qu'il écrivait plus ou moins en même temps, parce qu'il a écrit 12 livres en 7 ans, hein, Kerouac. Tout cela sans être publié. Alors ça nous amènera aussi à parler du caractère narcissique de cette écriture, dans la mesure où le lecteur n'est probablement pas à l'esprit de Kerouac quand il écrit. Il n'écrit pas pour un lecteur, il écrit pour lui-même. Et il disait lui-même, d'ailleurs, mon œuvre, c'est une vaste contemplation de mon être. Je devrais écrire des romans aussi, des romans avec des histoires. Mais ce récit de moi-même, c'est cela ma joie.
Mais par rapport au jazz, il y a aussi cette idée que la phrase correspond à une unité respiratoire, comme la phrase musicale du jazzman qui souffle dans son instrument et puis qui reprend sa respiration. C'est quelque chose dont Ginsberg a beaucoup parlé aussi.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est plutôt son écriture poétique qui est un bon exemple, qui est tout à fait ce genre de choses. Je crois que le meilleur exemple, c'est Mexico City Blues, qui est divisé en chorus. En fait, exactement comme un joueur de blues ou un jazzman prendrait un chorus selon un nombre défini de mesures. Et il aimait à dire que il arrêtait son chorus à partir du moment où la feuille de son bloc-notes se terminait. Exactement comme un jazzman devait laisser le passage au chorus du musicien suivant. Je crois qu'il y avait, en plus de cette invention du sketching, en plus de l'influence du jazz, il y avait aussi, je crois, les populations qui fréquentent les bars. Et je crois que c'est important. C'est-à-dire ce personnage qui se tient au coin du bar et qui va d'anecdote en anecdote et dont le langage, finalement, est ponctué d'arrêts, de retours en arrière. C'est-à-dire, je crois qu'il a réellement voulu recréer ce langage dans sa forme la plus pure, c'est-à-dire avec toutes ses contradictions sur le papier.
Oui, il y a des contradictions chez Henry Miller aussi, mais il y a une différence de style fondamentale, c'est que le style de Miller coule de façon comme une rivière qui descend vers la mer. Alors que, pour prendre votre image, la rivière de Kerouac fait des zigzags, repart en amont, redescend, se heurte à des rochers, et pour autant, il en garde tous les détritus qu'elle porte.
Ce qui fait que la lecture est heurtée, on ne peut pas le nier.
La lecture est heurtée, elle est difficile, elle est contradictoire. Il n'y a pas de plan préétabli, il n'y a pas d'organisation destinée à amener le lecteur à être de plus en plus, à s'identifier de plus en plus, ou à être de plus en plus pris par la stratégie narrative. Il n'y a pas de stratégie narrative.
Justement, Yves a évoqué tout à l'heure l'aspect narcissique de l'œuvre de Kerouac. Et là, une question se pose, est-ce que Kerouac, finalement, a réussi en tant qu'écrivain? Sa valeur en tant que romancier est quand même relativement contestée, du moins par certains critiques, bien qu'il fasse figure de légende, ce qui est une autre question. Et on peut dire aussi que l'art, justement, n'est pas seulement une transcription du réel, mais aussi une transfiguration. Peut-être que cet aspect de transfiguration peut parfois manquer chez Kerouac, qui essaye vraiment d'être fidèle à sa réalité, de contempler ses péripéties, ses aventures.
Je pense que effectivement c'est un problème très très important. Je conçois très bien que des gens n'accrochent pas à Kerouac, bien que il est très difficile d'échapper au rythme de sur la route, à la tension de sur la route. C'est pourquoi c'est resté son œuvre la plus célèbre, c'est que des personnes extrêmement diverses, des lecteurs très différents, vont être pris par ce livre-là. Je pense en partie parce qu'il y a là une construction, il y a un crescendo, il y a tout un mouvement que le livre dessine. Alors que dans Big Sur, nous avons l'impression que nous trouvons dès les premières pages dans une sorte de ressassement confus qui a beaucoup de charme pour certaines personnes, mais qui déroute des lecteurs demandant de l'art qu'il métamorphose l'expérience brute pour en faire un objet esthétique structuré. Alors, il y a effectivement dans cette littérature de l'orgasme, puisque lui-même disait qu'il fallait écrire pour se libérer de ce qu'on a à l'intérieur, il y a effectivement une projection confuse, brouillonne, désordonnée et très égotiste, qui parfois lasse le lecteur dans ce qu'elle a de trop axé sur l'énonciateur sans que le lecteur soit pris en compte.
Kerouac avait un don indéniable pour transcrire la langue parlée. C'est particulièrement remarquable dans son dernier roman, je crois, qui s'intitule Pic, qui vient d'être récemment publié en français aux éditions de la Table Ronde. Ce roman recrée le parler d'un petit noir américain. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que le roman a été traduit en français par un Québécois, par Daniel Poliquin. Est-ce que ça, vous pensez que le fait que ce soit un Québécois, donc qu'il le traduise en langue québécoise et non pas de notre langue française classique, permettra justement de bien saisir le rythme de la phrase kerouacienne?
Je pense que c'est une idée extraordinaire.
Parce que je crois effectivement, quand on vit au Québec, quand on entend cette langue, on a l'impression justement d'un rythme, il y a quelque chose qui swing, qui est tout à fait différent de notre français littéraire.
Oui, et puis il y a le dialecte de l'enfant de Caroline du Nord, du Petit Noir, qui pour un lecteur français est remarquablement bien rendu par certains mots charmants et pittoresques de l'idiolecte local.
Alors, dans la démarche d'écriture de Kerouac, le fait d'essayer de transcrire le réel, on retrouve cette volonté de tout intégrer, de ne rien rejeter, qui est aussi quelque chose de très présent dans le bouddhisme.
Oui, et puis également dans le catholicisme, je dirais. À l'origine, je crois qu'on doit prendre son œuvre comme une énorme confession. Et lorsqu'on est au confessionnal, on ne doit pas ne rien dire, il faut tout avouer. Je crois que c'est très important. L'idée de confession est énorme, je pense. Dans le bouddhisme aussi, sûrement. Mais je crois qu'à l'origine, c'est l'idée de confession qui prime, je pense.
C'est très intéressant, cette idée de confession, parce que quand on compare le style de ces textes au style des lettres qu'il écrivait à ses amis, et Dieu sait s'il en a écrit, ces personnages du groupe Beat ne cessaient de s'envoyer des lettres et de se confesser les uns aux autres, d'exprimer les moments d'extase, de perte, de découverte de leur itinéraire. Et effectivement, on s'aperçoit que c'est pratiquement le même style, qu'il y a la même générosité, la même fidélité et la même transparence d'un texte à l'autre, hein, de la lettre au roman.
Je dirais que c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer, comme vous l'avez dit, l'œuvre de Kerouac comme une espèce d'objet esthétique, un produit fini. Son œuvre n'est pas finie. Elle est éternellement à reconstruire, hein, je crois. Et ce qui colle tout à fait aux idées d'un Roland Barthes, par exemple, qui est certainement plus intéressé par ce qu'il appelle les textes scriptibles, c'est-à-dire qui permettent au lecteur de réécrire tout le temps le texte, contrairement aux textes classiques qui, eux, sont uniquement lisibles.
Oui, cette distinction est intéressante. Et effectivement, Kerouac est scriptible. Mais d'une certaine façon, paradoxalement, ce caractère extrêmement scriptible de son œuvre fait que, pour certains, il est difficilement lisible. Parce que, justement, il ne tient pas compte d'un certain nombre de conventions ou de cadres dans lesquels se déploie le roman.
Kerouac a certainement utilisé l'écriture comme une manière de thérapie, comme la plupart des écrivains d'ailleurs. Mais dans son cas, c'était peut-être particulièrement patent.
Très, très fortement. On a véritablement l'impression, comme dans l'exemple des souterrains dont on a déjà parlé, que écrire, c'est un moyen de sortir tout ce bouillonnement qu'il a en lui, sans pour autant le canaliser dans une forme romanesque qui serait plus construite. Et effectivement, il y a dans ce jet d'écriture, une sorte d'expulsion de tout ce qui bouillonne en son âme. Et il y a peut-être aussi un caractère quasi-suicidaire de l'écriture. Kerouac était un homme qui écrivait énormément. C'est pourquoi d'ailleurs il peut se permettre d'écrire en prose spontanée. Parce qu'il a une telle expérience de l'écriture depuis l'âge de 22 ans qu'en dépit du fait qu'il ne corrige pas, le texte charme, le texte porte en général. Même dans ces longs passages où il revient constamment sur cet objet à décrire. Mais on a dit de Kerouac que c'était un œil et une oreille, simplement, et que ce n'était pas relié à un esprit. C'est faux. Dans la mesure où il emmagasinait des images, il emmagasinait des textes recueillis, des textes oraux qu'il entendait dans les bars et ailleurs, et ensuite, tout cela faisait une sorte de cacophonie dans sa tête qui finalement ressortait sous une forme très fougueuse, parfois désordonnée, mais toujours prenante.
On sent là encore la tragédie qui ne fait que croître au fil des années, puisque finalement Kerouac, paradoxalement, tout en écrivant de plus en plus jusqu'au suicide, comme vous l'avez dit, perd peu à peu, à cause aussi de l'alcool bien sûr, ses facultés d'écrivain. On arrive à ces dernières années catastrophiques de sa vie, où à la fois il essaye de continuer à écrire, mais où il n'y arrive pas, où il ne fait plus que rassembler des bouts de texte ensemble, et où c'est absolument dramatique.
À la fin de sa vie, je crois que c'est la personne qui prend le pas sur l'auteur. Et donc il s'est laissé aller à l'alcool un peu trop fortement, et je crois que personne a pris le pas sur l'auteur et sur les ambitions, sur le personnage aussi.
Et pourtant, si on lit ses derniers livres, qui effectivement sont parfois pathétiques, comme je pense particulièrement à Satori à Paris,
voilà, je l'ai cité.
Et Vanité de Duluth. On s'aperçoit du métier de l'écrivain. À ce stade-là, il a complètement abandonné toute ambition stylistique ou toute foi stylistique profonde. Il est revenu à une écriture qui consiste à consigner ce qui s'est produit. Mais en dépit de cette sorte de résignation désabusée, on s'aperçoit que son talent pour raconter, ne serait-ce que cela, oui. Son talent pour raconter simplement ce qui s'est passé est toujours remarquable dans Vanité de Duluth, texte qui, sur le plan de l'originalité de l'écriture, a perdu tout intérêt.
Satori à Paris, en quelque sorte, c'est un roman qui consiste ni plus ni moins en des divagations d'ivrogne qui va d'un endroit à l'autre, rate ses trains, se saoule, et malgré tout, effectivement, on retrouve cette fascination. On est malgré tout fasciné d'apprendre comment Kerouac est allé en Bretagne, est tombé ivre mort, n'a rien fait de ce qu'il avait prévu de faire au début parce qu'il a trop bu, et comment finalement il a eu une espèce d'expérience très vague qui qualifie pompeusement de Satori. Malgré tout, ça reste fascinant et attachant.
Ce que j'aime dans ce livre, Satori à Paris, et aussi dans Vanité de Duluth, c'est le caractère comique de Kerouac. Il est devenu cette sorte de bikou, de petit moine qui se promène de ci, de là, évidemment sous une forme grotesque, non, pas du tout sous une forme sacrée. Mais il y a ce caractère comique du vieux roué canadien, dont il parle si souvent quand il se remémore Lowell, du vieux conteur canadien, ironique, alcoolique, drôle, cocasse et en même temps désespéré.
Et il se met lui-même en scène avec une grande autodérision.
D'ailleurs, il n'a jamais cessé de se mettre en scène, mais la façon dont il se traitait était beaucoup plus grave, en dépit des accents de joie et du bouillonnement juvénile du départ, au départ. Et par la suite, il s'est mis en scène un peu comme un personnage dont on se moque dans les bars de Lowell.
Cette émission a été diffusée la première fois le 2 juin 1988 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.